Parce que un artiste chrétien, il doit voir ça comme un ministère ou comme une carrière.
On ne peut pas, à la fin d'un événement, dire il y a 27 personnes qui ont levé la main. Oh, gloire à Dieu, on a sauvé 27 personnes aujourd'hui. Non, parce que sur les 27 personnes qui ont levé la main, il y en a peut-être 20 qui ont levé la main juste parce que la note, là, le dos, là, il était bien.
Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une génération de chrétiens du divertissement, tu vois ce que je veux dire? Qui croient que la foi chrétienne, c'est s'amuser, c'est écouter de la musique, c'est danser en concert. J'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place dans l'église actuelle.
Je sais pas si je partage ton avis parce que...
On n'est plus dans l'ancienne alliance où il y a les lévites qui s'occupent du culte. Non, non, on est tous lévites, on est tous sacrificateurs, on est tous prêtres. Le ministère de la louange, de l'adoration, c'est pas réservé à celui qui est sur scène, qui joue un instrument ou qui a un micro. On a tous ce ministère-là. Mmh.
Rappelle-toi le dernier morceau que j'ai sorti avant de partir. Je vous avoue que j'ai peur pour notre génération. Mmh. Tout le monde veut chanter, mais combien ont compris la mission? Mmh. On cherche à être artiste avant d'être à Christ. On veut convertir des vies sans même consacrer nos vies.
Et moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui devraient faire de la musique non chrétienne. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu te sers de Dieu, tu vois? Mmh. C'est une vraie question à se poser.
Non, je comprends. Parfois, il y a des sons qui sortent chrétiens. De mon point de vue, c'est nul, frère. Non, pardon. Pour répondre à ta dernière question, il y a des choses qui se préparent.
Oh.
Ouais, mon frère.
En direct live. Yo l'équipe, c'est ton gars Joe pour le salut d'une seule âme. Un seul Dieu, un seul homme, Christ le Shiloh, Shalom, salam à toi, salam à toi. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur, le privilège d'accueillir mon gars Boris. Comment ça va mon frérot?
Ça va et toi?
Ben on est là, hein. Ça on va là. Peinard, tranquillement.
Ça date au quartier. Hein.
Ça fait vraiment plaisir de t'avoir pour te présenter. Mm-hmm. Dis-nous à quoi et en quoi tu es dévoué.
Moi, je suis dévoué à Christ, hein. Avant tout, dévoué à Christ, et ça se traduit dans ma vie de tous les jours. Je me suis marié devant le Seigneur, je suis engagé auprès de ma femme à servir le Seigneur dans mon foyer déjà. Bah sinon, moi je travaille aussi dans le séculier, hein, je suis prof à côté, mais j'ai pas mal aussi d'investissements pour le Seigneur, que ce soit dans mon église, je suis responsable des ados, je suis à la louange, je suis à l'événementiel, et puis je travaille aussi à la communication et au marketing de plein d'acteurs dans le milieu chrétien.
Merci pour cette présentation.
Voilà.
Je tenais à t'inviter dans cet épisode où on va parler de la musique chrétienne. Mmh. C'est un des sujets qui nous lie, toi et moi, ouais. Parce que bah, on est cofondateur du groupe Dévotion, pour ceux qui ne le savaient pas. Raconte-nous un peu ton expérience de la musique. Ça fait combien de temps là?
La musique, ça fait 20 ans peut-être, 20 ans, 18 ans, mais nous ensemble, on a commencé en 2010, c'est ça?
Ça fait 15 ans.
2011, je passais le bac, c'était en 2010. Et tout a commencé dans la chambre de Daniel, pour être précis.
C'est vrai.
Tout a commencé dans la chambre de Daniel. Et en fait, c'est parti de mon groupe de jeunes à l'époque, Believe, donc à l'église de Villers-le-Bel. Mmh. Et en fait, on a commencé à se lancer dans la production musicale. On a commencé à écrire des chansons et à faire du théâtre. Et on a pris goût en fait à la production artistique pour annoncer l'évangile, tout simplement. Mmh. Et j'y ai pris tellement goût que j'ai commencé à écrire dans mon coin et je t'avais connu aussi à travers nos groupes de jeunes respectifs.
En tout cas, moi j'étais venu voir votre spectacle.
Voilà, t'étais venu voir le spectacle, on s'était croisés là-bas.
Je sais plus si c'est là la première fois qu'on s'est vu, mais...
Je crois qu'on s'était peut-être croisés avant, mais c'est là où on s'était vu, on s'était parlé. Et un jour, comme ça, un bon après-midi, je suis venu te voir avec Daniel et toi, du coup, avec ce cahier rempli de textes. Et je lui ai dit, frérot, j'ai vraiment à cœur de travailler avec toi sur ces textes, qu'on puisse les partager. Et toi, tel un homme fou de Dieu, t'as dit « vas-y, go !» Sans savoir comment, ni avec quels moyens, ni quelles possibilités, mais on y allait. Et c'était en 2010, et on a trouvé le nom Dévotion dans la voiture avec ta maman, je sais pas si tu te rappelles.
Non.
j'ai pas oublié. Avec ta maman, et on s'est dit « mais quel nom on peut trouver pour ce groupe ?» Et plein de propositions, et c'est ta maman qui a sorti Dévotion.
Mais non.
C'est ta maman, frère.
Et Maman Denise.
Maman Denise. Elle a dit, Dévotion, ça sonne bien. Et puis,
c'est ça.
Et c'est parti de là. Et Dévotion, 10 ans plus tard, des albums, des concerts, l'évangile qui est prêché dans la francophonie, et des moments extraordinaires.
Le groupe a changé aussi entre-temps. Ouais. Mon pote a pris du recul. Mm-hmm. Il y a plein de nouvelles personnes dans le groupe. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on ne veut pas parler spécifiquement de Dévotion, mais plutôt de l'évolution de la musique chrétienne. Mmh. Parce que nous, on l'a vu évoluer. Comme tu l'as dit, on a commencé, il n'y avait rien.
Que dalle.
Rien. Et ça a beaucoup changé.
Ouais. La musique, elle a changé. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, c'était Facebook à l'époque. Le seul moyen de diffuser la musique, et surtout, c'était les CD. Hein. On gravait les CD à l'ancienne.
Quelle histoire.
On gravait les CD à la maison. Mmh. C'était archaïque, entre guillemets, quand on pense à ce qui est fait aujourd'hui. Mais en même temps, du coup, c'était exclusif. Il fallait vraiment le vouloir pour faire de la musique.
Ouais.
Là où aujourd'hui, c'est tellement facile que c'est trop bien parce que du coup, il y a une offre qui est extraordinaire. Ça s'est diversifié dans tous les points de vue, dans les genres, dans les types de musique, dans le type de personne aussi qui peut se lancer. Mais c'est venu aussi avec le versant qui est de se dire que n'importe qui peut sortir un morceau sur les plateformes sans aucune formation, sans aucun soutien d'une église.
Donc il y a un danger.
Il y a un danger qui est réel, mais il faut le voir en positif avant tout. C'est une opportunité qu'on a aujourd'hui d'annoncer le nom du Seigneur à une échelle beaucoup plus importante. Et ça se voit quand on a des frères et sœurs en Christ qui font des grandes salles, Il faut remercier le Seigneur pour ça, parce que ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Mais il faut être aussi sage et se dire, ça vient avec une responsabilité.
Comme tu l'as dit, nous, à l'époque, il fallait vraiment le vouloir. Et au-delà de ça, je pense qu'il y avait plus cette notion d'appel, de ministère, de vocation même, pour servir Dieu dans la musique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus cet aspect de carrière derrière la musique chrétienne. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un artiste chrétien, il doit voir ça comme un ministère ou comme une carrière?
Je pense que les deux sont pas incompatibles pour moi. On est tous appelés à le voir comme une vocation, comme un engagement. Quand tu t'engages dans le service par la musique, tu t'engages personnellement. Tu vas pas commencer à sortir des disques parce que tu chantes bien ou parce que tu passes bien à l'écran. Tu vas sortir des disques parce que t'as à cœur de servir le Seigneur par ta musique et t'as à cœur de mettre de ton temps, de ton argent, de ton énergie dans ce ministère-là. Mmh. Et c'est pour ça que tu peux pas te lancer seul. Pour moi, tu peux pas, à 14, 15, 16 ans, te lancer seul sans en parler à tes responsables du groupe de jeunes, sans en parler à ton église.
Déjà, pour ça, il faut une église et des responsables.
Exactement. Mais tu vois, pour moi, c'est pas... je dis pas que c'est pas possible, parce qu'il faut pas être radical, tu vois, mais c'est dangereux. Si t'as pas de soutien, si t'as personne qui prie pour toi, si t'as personne qui t'accompagne, si t'as personne qui t'aide à prendre des décisions. Parce que très vite, de nos jours, en plus c'est encore plus rapide, tu gagnes de la visibilité, tu gagnes des gens qui te suivent, des gens qui t'écoutent, des gens que tu influences. Et comment tu vas influencer des gens dans la bonne direction si toi-même t'es en train de chercher cette bonne direction, tu vois? Et donc, il n'y a personne qui est arrivé, tu vois. Mais si un chrétien pouvait être le meilleur chrétien seul, ça se saurait, tu vois. On n'est pas appelé à vivre seul notre foi, on n'est pas appelé à l'expérimenter seul. Et de la même manière, on n'est pas appelé à servir dans n'importe quel service seul. C'est pour ça qu'il y a l'église, tu vois. Si c'était possible, dès le départ, dès Actes, tout le monde serait allé dans son coin, tu vois, et on aurait vu ça. Mais dès le départ, ça s'est rassemblé. Ils se briefaient, ils se débriefaient, tu vois. Il y a toujours eu cette volonté de faire ensemble. Et donc aujourd'hui, tu peux pas servir dans la musique seul, dans ton coin, avec tes plateformes, tu vois, ça marche pas.
L'intérêt, c'est la redevabilité les uns envers les autres. C'est aussi d'avoir une base, des gens qui prient pour toi.
Ouais.
D'avoir des conseillers spirituels. Est-ce que nous, dévotion, je reviens à nous parce que c'est intéressant de parler aussi de notre témoignage.
Bien sûr.
Est-ce qu'on a mis ça en pratique? Parce que je pense que des fois c'est difficile aussi parce que lorsqu'on est un groupe de musique, il y a une part quand même de ministère séparé de l'église locale.
Oui.
Mais je crois qu'on a quand même toujours fait l'effort d'avoir un lien. Je sais que l'église de Franconville a toujours soutenu dévotion, que ce soit financièrement, par la prière, tous les concerts, on en parlait aux réunions de prière, donc il y avait vraiment un suivi. Mais il y a aussi une indépendance, parce qu'on est un groupe inter-église, on n'est pas rattaché à une seule église. C'est quoi le bon équilibre là-dedans?
L'indépendance, c'est indispensable, parce qu'en fait, il faut qu'on soit aussi en capacité de mettre en œuvre notre créativité. C'est vrai que dévotion, on était... très rapidement assez nombreux, entre guillemets, tu vois, on est passé de 5, 10, 15, et donc chacun avec ses aspirations, chacun avec parfois son église, sa culture, etc. Et donc il faut avoir cette liberté d'aller explorer plein de choses. Mais que ce soit l'église de Franconville, que ce soit l'église de Villers-le-Bel, on a toujours eu des personnes à qui on était redevable, tu vois. Moi, pareil, dans mon église, ils savaient tout le temps, quand j'allais en concert, quand j'étais sur un morceau, je faisais écouter, tu vois. tous nos morceaux, je les faisais liquer à fond. Ouais. Tu vois, on a tous fait liquer nos sons. Tu vois, mais parce que moi, je voulais être sûr.
Ouais.
Quand on a commencé, j'avais 17 ans, 18 ans, tu avais 2 ans de moins.
Oui.
Tu vois, on était jeunes, entre guillemets, et jeunes dans la foi aussi. On était en croissance spirituelle. Et donc, tu ne peux pas être expert de tout. D'ailleurs, on ne l'est toujours pas, en vrai. Mmh. Mais encore moins à ces âges-là. Et donc, tu as besoin de recul, tu as besoin d'expertise. Je me rappelle que le premier jour, quand je suis venu te voir avec Daniel pour qu'on crée Dévotion, j'étais avec mon grand frère. Mmh. Tu vois, je ne suis pas venu seul parce que Kevin, il ne s'est jamais impliqué dans le groupe. Mais pour moi, c'était important que mon grand frère, qui a toujours été un peu mon modèle spirituel aussi, mmh. soit là. Parce que c'est lui qui m'a guidé, c'est lui qui m'a... Parce que moi, si c'était que moi, je serais venu te voir longtemps avant. Mais c'est lui qui m'a dit, temporise, attends, prie un peu pour ça, mmh. tu vois. Et donc, j'ai toujours vu en lui celui qui me permet d'avoir cette vue extérieure sur moi-même, tu vois.
Ouais.
C'est indispensable.
C'est grave intéressant. Tu vois, même ce podcast-là, on a fait en sorte que ce soit dans une église. On n'a pas caché le fond, on aurait pu faire genre studio, tu vois, de tournage et tout. On a mis une chaire, des instruments et tout pour qu'on sache. On ne fait pas nos trucs indépendamment de l'église. Mmh. L'église, c'est l'épouse de Christ, c'est le projet de Dieu. On n'est pas au-dessus de l'église.
C'est clair.
Et donc, avant tout, on est envoyé par l'église.
Mmh.
Maintenant, le ministère d'évangélisation, le ministère, on le voit dans les actes, avec des Paul, Barnabas, qui sont rattachés à une église locale, envoyés par une église locale, mais après, qui vont d'église en église.
Mmh.
Et qui vont même, pas que dans les églises, dans les temples, dans les rues. Paul qui va à Athènes prêcher là où il y a des temples d'idoles et tout. Et ça, ça fait aussi partie, je pense, du rôle, en tout cas, de certains artistes chrétiens. Donc, être rattaché à l'église locale, ça ne veut pas dire que le ministère s'arrête à l'église locale. À l'époque, mon pasteur Cédric, justement, il voulait qu'on ait cette indépendance, pas indépendance, peut-être autonomie, je ne sais pas comment on devrait le dire, mais qu'on puisse avoir cette liberté-là d'avoir un ministère itinérant. Tu vois. Donc, que ce ne soit pas contenu dans l'église locale, mais que ce soit envoyé par l'église. Je ne sais pas comment toi tu vois ça.
Mais en fait, c'est le rôle de l'église de rayonner dans son environnement. Si l'église ne sert qu'à faire grandir ceux qui sont à l'intérieur, mais de fermer les portes, il me semble qu'il y a une partie quand même de la mission qui est de rayonner dans son environnement, à titre personnel, mais aussi à titre d'église, tu vois. Cédric, il avait raison. Ça veut dire qu'ils nous ont toujours propulsés. Dès qu'on avait besoin de tester des nouveaux morceaux, les concerts, c'était toujours soit Sanois, soit Franconville, soit Villers-le-Bel. C'était la base. C'était là que ça se passait parce que c'est la source, tu vois. C'est la base et c'est toujours les critiques les plus dures, les plus claires, les plus franches, mais les plus constructives et qui nous font grandir. Et nous, ça fait du bien. Je me rappelle, il y a eu une période de 2 ans où on était en tournée tous les week-ends. On était partout dans la francophonie. On rentrait le dimanche, on partait au taf, on repartait le vendredi. C'était que ça.
Mmh.
Et donc, durant cette période-là, à chaque fois qu'on rentrait dans nos églises respectives, mais je me souviens qu'on avait tous ce même retour de se dire oh, « ça fait du bien ». C'est comme un retour au camp de base.
Mmh.
Et pour moi, c'est ça. Et l'église, dans ce sens-là, elle a ce pouvoir formidable de te ressourcer, de recharger les batteries, de retrouver une communion fraternelle avec ceux qui t'ont vu grandir, qui ne te connaissent pas comme Boris de Dévotion, comme Jonathan de Dévotion, mais juste Jonathan, juste Boris. Et ils vont te parler avec la même sincérité, la même authenticité que quand personne te connaissait. Et je me rappelle qu'à une période, c'était vraiment ce dont on avait besoin aussi, d'avoir des personnes qui nous connaissent pour qui on est, pas pour ce qu'on fait, et avec qui on peut être nous-mêmes.
Mmh.
Ça fait du bien, c'est indispensable même.
Complètement. Et là, on parle beaucoup de la musique, du coup, comme un ministère, mais au-delà de ça, on se posait la question, justement, est-ce que ça peut être une carrière, c'est-à-dire une ambition un peu plus pécuniaire,
oui.
si on peut dire ça comme ça.
Ouais.
Est-ce qu'un artiste chrétien, c'est normal qu'il gagne de l'argent ?
Pour moi, je vais sur quasiment toutes mes réponses, je vais dire que le risque se trouve dans le fait de trancher de manière trop abrupte. Moi, je n'ai pas forcément le niveau de connaissance de tout ce que ça implique pour dire non, ce n'est pas bien, oui, c'est bien. Je pense que tout est dans la mesure et tout est dans l'appel de chacun. Et si quelqu'un affirme avec certitude, j'ai cet appel-là, je veux aller dans cette direction-là, le Seigneur me guide dans cette direction-là, j'ai mon église qui me soutient, machin, qui je suis moi pour dire, frérot, c'est péché ce que tu fais. Et là, sur ça, moi, j'accepte juste de faire confiance au Seigneur. Il va qualifier ceux qu'il appelle, et ceux qui se lancent sans être qualifiés et sans être appelés, dans tous les cas, ça finira par se voir et ça finira par disparaître, et dans tous les cas, tu finiras par devoir rendre des comptes aussi pour ça. Donc, est-ce que c'est possible de faire carrière ? Pour moi, oui. Mmh. Tu vois, quand tu vois des Case Bloom, des Gambella, des NK Divine, moi, je suis trop fier. Je suis trop fier parce que je me dis, mais à notre époque, entre guillemets, je fais l'ancien, mais il y a plus d'anciens que nous. Hein. La Skinson et compagnie, eux, c'est des anciens, tu vois. Mais quand je vois ces artistes-là qui remplissent des dômes de Paris, qui remplissent des zéniths, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et tu penses qu'on peut vivre de la musique chrétienne aujourd'hui ? C'est une vraie question que je me pose. Hein. En France, hein, parce qu'on connaît les States. Est-ce qu'en France, un artiste chrétien, il peut en vivre ? Il y a un vrai marché, il y a du bif.
Il y a un marché qui c'est une question, ouais. Il y a un marché qui se construit. Ouais. Il y a un marché qui se construit, qui est certes beaucoup moins développé que le séculier. Il faut pas se mentir. Mais maintenant, il y a des ponts. Il y a des ponts qui se font entre nous et le séculier. Tu vois. Mmh. Je pense à Danny Sainté qui ouvre beaucoup de portes. Tu vois. Quand tu vois, c'est lui qui est à la prod de plein de morceaux, d'NK Divine, de Gaillard Jules, de Matt, tu vois. Mmh. Et donc, il y a des ponts qui se font quand t'as des solutions qui se développent comme Top Music, qui permettent à des artistes comme toi et moi à l'époque d'être propulsés sur des plateformes, d'avoir une visibilité. Oui, c'est possible aujourd'hui de faire carrière. Encore faut-il y être appelé, encore faut-il avoir l'endurance, la vocation et le sacrifice.
Je pense quand même, faut préciser, c'est une très petite minorité, ouais, qui peut vivre
très,
la musique.
Très, je peux continuer longtemps. Très petite minorité. Aujourd'hui, quand tu regardes, il y a plein d'artistes super connus, mais qui font carrière, tu les comptes sur le doigt d'une main, je pense. Hein.
Mais est-ce que c'est un problème ? Parce que moi, je vois beaucoup de discours, des fois, un peu aigris, tu sais, des artistes chrétiens. Ouais, mais vas-y, les chrétiens, ils soutiennent pas, ils payent pas les concerts, trucs, nanana. Nous, on a commencé à une époque où la question, elle se posait même pas, en fait.
C'est vrai.
Il y avait pas d'argent, il y avait pas de business, il y avait pas de carrière à faire dans la musique chrétienne. Donc, c'est vrai que moi, parfois, quand je vois ces discours-là, j'ai un peu ce recul-là de me dire « Mais les gars, en fait, vous faites ça pourquoi, en fait ?» Mais je peux aussi comprendre des gens qui pensent pouvoir faire carrière dedans et qui sont après déçus, qui sont après découragés parce que les fruits ne sont pas là et tout. Comment tu vois ça, toi ?
Moi, je suis assez tranquille avec ça. C'est-à-dire que le Seigneur fait toutes choses en son temps, tu vois. Et il y a des portes qui s'ouvrent, qui sont ouvertes déjà depuis des années. C'est génial. Il y a des portes qui ne sont pas encore ouvertes, qui ne permettent pas d'avoir un marché où il y a la place pour tout le monde, tu vois. Bah, c'est OK. Tu vois, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le Seigneur faire son œuvre. Si la porte, elle est fermée pour toi aujourd'hui, soit c'est qu'en fait, c'est pas une porte pour toi, soit c'est pas une porte qui est censée s'ouvrir maintenant. Et est-ce que l'Église universelle doit soutenir davantage ces initiatives-là ? Bien sûr. Mmh. Est-ce qu'elle le fait assez ? Sans doute pas. Mais est-ce que c'est une raison pour être frustré, aigri, machin ? Je ne pense pas non plus, parce que les choses vont se faire dans leur temps, et ça va dans la bonne direction. Ça, c'est une certitude, tu vois. Et en vrai, encore une fois, tout le monde n'est pas appelé à faire des concerts guichets fermés, des gros cachets. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça, tu vois.
Ouais, et puis, je pense qu'il faut aussi le dire, qu'il peut y avoir cette vision de dire « je fais de la musique chrétienne » simplement dans un optique de service, de ministère. Une dévotion, on n'a jamais pris un centime. C'est pas pour nous vanter, mais c'est juste pour dire ça existe.
Ouais,
des,
ouais.
Des gens qui servent Dieu dans la musique et qui sont pas là pour gagner de l'argent, tu vois.
Oui, et heureusement, j'ai envie de croire que la majorité des artistes qui servent le Seigneur par la musique aujourd'hui, et tu vois, les termes sont importants, la majorité des artistes qui servent le Seigneur par la musique. C'est pas des artistes chrétiens, pas des chrétiens qui font de la musique, ce sont juste des personnes, comme toi et moi, qui servent le Seigneur par la musique. La majorité de ces personnes-là, elles prennent pas un centime. Et elles s'en plaignent pas. Et c'est pas, elles disent pas « Oui, je fais ça pour le Seigneur, donc je ne refuse de prendre un centime. » Non, certains ne se posent juste pas la question. Parce que leur volonté première, c'est d'annoncer l'évangile, de favoriser l'édification du corps de Christ par la musique, et c'est tout. Si l'argent vient, gloire à Dieu. Si l'argent ne vient pas, gloire à Dieu. Et je pense que, tu vois, avec le recul, et c'est un discours que j'aurais peut-être pas eu il y a quelques années, tu vois. Mais j'ai ce recul de me dire aujourd'hui, faut pas forcer, tu vois. Le Seigneur, il est souverain de toutes les circonstances, tu vois. Ça vient aussi avec l'expérience de se dire, nous, quand on a commencé, il n'y avait rien, entre guillemets, et on est arrivé ensuite à un stade où tout d'un coup, il a commencé à avoir beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de visibilité, beaucoup de sollicitations. Ça devenait beaucoup à un moment donné, tu vois. Et donc, ce qui est bizarre, c'est qu'on a ressenti le besoin de faire le chemin inverse. Je sais pas si tu te rappelles ce moment-là où on a commencé à se dire, ouais, les gars, mais d'ailleurs, t'étais beaucoup à l'initiative. Et moi, je poussais plus dans l'autre direction, en plus, tu te rappelles?
Oui.
Parce que, à un moment donné, nous, on voulait aller plus loin dans l'artistique, plus loin dans la qualité des clips, plus loin dans les opportunités, plus loin dans tout ça. Et toi, tu ressentais ce besoin de doser, de revenir un peu à la simplicité de ce que faisait Dévotion avant. Et aujourd'hui, je comprends ta vision plus aujourd'hui qu'avant. Parce que tu vois, quand j'ai pris du recul avec Dévotion et que j'ai ressorti après 2-3 morceaux de 2 années plus tard, juste comme ça, dans mon coin, ça a fait 17 vues. Qu'est-ce que je me suis régalé. Parce que tu sais, c'est le plaisir de faire de la musique juste pour de la musique. Pas de com.
Pas d'attente.
Pas d'attente.
De trucs, pression.
Juste le cœur que tu mets sur la table sur un morceau que tu avais envie de sortir de toi, parce que le Seigneur te l'a mis à cœur. Ça touche 3 personnes et demie, mais les 3 personnes, ça les touche vraiment. Et tu as des vraies discussions avec. Mmh. Et ça crée des opportunités. Et c'est tout, tu vois.
Mais je n'étais pas contre le... Comment dire? C'est sûr qu'on est content quand l'audience augmente, quand le message a de l'impact et que qu'on touche de plus en plus de personnes. Mais parfois, ça a un prix, dans le sens où ce que les gens veulent entendre, c'est pas toujours ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mmh. Tu vois. Et les trucs qui marchent le mieux, c'est pas forcément les choses qui sont les plus impactantes en termes spirituels, en termes de profondeur du message et tout. Je pensais à ce verset de Timothée 4, 3. « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mmh. » Tu vois ce principe de dire, en fait, les gens, ils veulent que entendre ce qui leur fait plaisir. Mmh. Ils veulent pas entendre la vérité. Et c'est vrai que moi, c'est plus ça, tu vois. C'est plus ce ressenti-là que j'avais. C'était pas forcément le problème de « Ah, on a du buzz, on a de la visibilité. » Non, c'est cool, c'est trop bien, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait ?
Mmh. Après, moi, je pense que les deux sont compatibles, tu vois. Tu peux faire de la musique que les gens ont envie d'entendre en termes de genre et y mettre le fond, tu vois. Et c'est là où c'est OK, tu vois, d'avoir des visions différentes et de se dire que moi, Soldat, pour moi, j'ai kiffé le faire. Et c'est un morceau qui nous a ouvert des portes fantastiques, portes dans lesquelles derrière on est allé avec des morceaux, tu te rappelles, on est allé dans des églises avec des morceaux très costauds, tu vois. Mais dans ces églises, on n'y serait jamais allé si la carotte n'était pas Soldat, tu vois.
Mais de fou. Mais tu sais qu'encore aujourd'hui, à chaque fois je fais une presta, en plus des fois j'y vais tout seul et tout, rien à voir. On me dit, ah, il y aura Soldat.
Tu vois, mais parce que ça ouvre la porte pour ensuite pouvoir amener le Dévotion, tu vois, qui est dans la profondeur des textes, dans machin. Et c'est pour ça que, tu vois, si on ouvre cette discussion à tous les groupes, tous les genres musicaux, tous les artistes, bah, c'est pour ça que moi, je suis très à l'aise avec le fait qu'il y ait plein de genres musicaux, plein de types de créativité très, très... Et il y a plein de morceaux que j'écouterai jamais, frère. Parce que c'est pas mon style, c'est pas mon genre. Ça m'intéresse même pas de poser mon oreille, tu vois. Mais que ça existe, je vais pas dire, ah, est-ce que ça vraiment c'est de Dieu? Non, frère. Qui je suis moi pour dire, le rap c'est pas de Dieu, le machin c'est pas de Dieu? Personne. Il y a des moments où, tu sais, comme a dit Job à ses potes, si tu t'étais tué, tu serais passé pour un intelligent. Alors qu'il y a plein de choses que ses potes ils ont dit qui étaient vraies. Plein de choses qui étaient vraies, mais étaient juste pas dans le contexte. Pas adapté au contexte. Donc, quand c'est juste, mais que c'est pas adapté, bah, ça en devient non pas faux, mais juste blessant.
Je trouve qu'il y a quand même des bonnes questions à se poser sur ces sujets-là, sur le style de musique et tout. En gros, la question qui se pose, c'est est-ce que le chrétien, il peut faire n'importe quel style? Est-ce qu'il peut faire du rap? Est-ce qu'il peut faire du zouk, la zumba ou je sais pas quoi? Et il peut y avoir des réponses faciles en mode c'est Dieu qui a créé la musique, on peut tout faire. Il peut y avoir des réponses extrêmes aussi dans l'autre sens, de dire le rap c'est le diable et tout ça. Moi je pense qu'il y a des vraies, quand même, des vraies questions qui se posent, dans le sens où nous on fait du rap chrétien, moi je suis conscient que c'est un outil que Dieu peut utiliser et tout ça, mais il y a aussi une culture parfois associée à un style de musique, et on peut en être imprégné sans en rendre compte. Il y a des valeurs parfois associées, et notamment dans le rap, et même quand c'est du rap chrétien, parfois on retrouve ces choses-là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut se poser la question? Est-ce qu'on doit être en mode non, on juge pas et puis chacun fait ce qu'il veut?
Je dirais que ma réponse, elle est un peu dans tout ce que tu viens de dire. Je vois pas quel style de musique doit être. Tu dois mettre un veto dessus. D'emblée, je vois pas. Après, peut-être que je les connais pas tous. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que tu fais du rap chrétien que tu fais du rap dans lequel tu mets des paroles chrétiennes que tu dois faire du rap comme les autres pour attirer ceux qui écoutent d'autres rappeurs, tu vois. C'est là où je pense qu'il faut que dans tout ce que tu fais, tu dois faire la différence. On est dans le monde, mais pas du monde. Si on est dans le monde, ça veut dire que tous les outils qui sont à notre disposition, il faut qu'on puisse, si le Seigneur le permet, les utiliser. La question, c'est comment tu les utilises et à qui tu rends gloire dans ce que tu fais, tu vois. Si je fais du rap en me disant, j'ai écouté un morceau de tel artiste et que je veux faire comme lui parce que ce morceau, il a grave buzzé, donc moi, je veux faire comme lui, mais juste, je mets des paroles chrétiennes, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Parce que du coup, tu vas prendre son style à lui, tu vas essayer de calquer sur ce qu'il fait lui, mais juste mettre Jésus toutes les trois phrases, je suis pas sûr. Parce que tu veux que toute la création artistique soit à la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Mmh. Et à aucun moment, on va chercher à calquer ce que fait le monde. Bien sûr qu'on est imprégné. Il y a une période trap, il y a eu plein de morceaux chrétiens trap, parce qu'on est imprégné de cette culture-là. Et ce serait... un, mentir, et deux, ce serait pas forcément très très malin de se dire, oh, s'il y a de la trappe dans le monde, moi je vais faire l'opposé, je vais faire que de la poésie. Bah, tu peux, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Je pense que il faut être libre de se dire, on est imprégné par la culture qui nous entoure, on se sert de tout ça, mais il faut, dans tout ce qu'on fait, qu'on se demande, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Tu vois.
Ouais. Et quand tu dis imprégné de la culture, c'est intéressant. Moi j'ai Je suis du genre à penser que le style musical, que ce soit le rythme, la mélodie, les notes, etc., comment dire, c'est un outil, t'en fais soit quelque chose de bien, soit quelque chose de pas bien. Mmh. Donc moi, je serais pas forcément contre s'inspirer de musique du monde, dans le sens où la musique, c'est Dieu qui l'a créée, et on peut s'émerveiller, on peut louer Dieu pour de la musique non chrétienne, parce qu'elle est belle en soi, au niveau de la forme. Tout ça, c'est pour dire que moi, je suis pas contre le fait de dire « Ah, j'ai écouté un son de... » tel artiste, on va pas citer de blase pour pas choquer les gens.
On va pas citer de blase. N'attrapez pas nos vestes.
mais vas-y, j'ai envie de reproduire ça parce que je kiffe le style et tout. Mais dans l'écriture des paroles, dans le message véhiculé, dans mon attitude de cœur, dans l'objectif aussi, dans tout ça, je veux le faire selon les principes bibliques, selon les valeurs chrétiennes, tu vois. Mais je pense que même lorsqu'on fait cet effort-là, on peut sans s'en rendre compte être influencé culturellement. Dans le sens où, voilà, moi je parle du rap, je connais un petit peu, il y a notamment cette notion d'ego trip. Mmh. On se met en avant. Même si tu veux faire du rap chrétien, tu peux parfois être influencé par cet état d'esprit.
Bien sûr.
En fait, juste sous couvert de dire, ouais, moi je l'ai fait, c'est chrétien, j'ai mis Jésus dedans et tout. Mmh. Moi, le fait que le style de musique ressemble au monde, moi ça me dérange pas. Par contre... Parfois, tu sens que le message véhiculé, il est imprégné d'ego trip, de recherche de gloire, recherche d'argent, recherche de... Mais il y a quand même Dieu dedans, tu vois.
Ouais.
Et parfois, au-delà du message, c'est pas forcément directement dans le message, mais c'est dans l'attitude de cœur, dans le témoignage, dans l'objectif recherché, tu vois, l'objectif de succès, de gloire, etc. Je pense que c'est un danger. Clairement. À partir du moment où tu veux faire comme le monde, si ça reste au niveau de la forme... Pourquoi pas? Les notes, c'est pas le monde qui les a créées, c'est Dieu. Mais il y a cet état d'esprit-là par lequel tu peux être influencé. Mmh. Et je veux en parler avec humilité et en étant conscient que moi-même, nous-mêmes, on a pu être tenté par cet état d'esprit-là, tu vois. Parce que la musique en elle-même, ça reste un outil de divertissement, un outil de culture. Et parfois, on ramène... des valeurs et des principes mondains dans l'Église. J'essaye d'avoir du recul et je me dis, est-ce que nous, parfois, on ne participe pas à une évolution de la foi chrétienne? Tu vois, la foi chrétienne moderne, c'est beaucoup une mode. On s'est éloigné d'une foi basée sur la parole, d'une foi solide et vécue, mais plus comme un effet de mode, un effet de culture. Je suis chrétien parce que j'ai grandi dans la foi chrétienne, parce que j'écoute de la musique chrétienne, parce que je vais à des événements chrétiens, mais finalement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de service. Nous, on a toujours combattu ça, parce que c'est pour ça même qu'on s'appelle dévotion. On veut que notre message, ce ne soit pas juste quelque chose qu'on dise, mais que ce soit quelque chose qu'on vive.
Je ne sais pas si je partage ton avis, parce que pour moi, l'essor de l'événementiel chrétien, pour l'appeler comme ça, pour moi, c'est formidable, parce que c'est... c'est une passerelle formidable, tu vois. Il y a plein de... Aujourd'hui, tu peux inviter tes amis qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas... Et j'ai bien dit Dieu, j'ai même pas dit Jésus-Christ, j'ai dit Dieu. Vraiment Dieu, je suis resté large. Tu vois, mais tu peux inviter plein d'amis à toi à un listing d'événements chrétiens incroyables. Tous ces événements-là, est-ce qu'il y a ce que tu décris? Oui. Mais est-ce que c'est pas une opportunité formidable d'ouvrir l'évangile? Maintenant, tu as raison, ça vient avec le risque de... est-ce que nous, en tant qu'artistes, on est conscient de la responsabilité que ça nous donne? Que tu vois, on ne peut pas, à la fin d'un événement, dire il y a 27 personnes qui ont levé la main, oh, gloire à Dieu, on a sauvé 27 personnes aujourd'hui. Non, non. Parce que sur les 27 personnes qui ont levé la main, il y en a peut-être 20 qui ont levé la main juste parce que la note, là, le dos, là, elle était bien. Tu vois, le dos, il était bien.
Les lumières,
tu
vois, les lumières la nappe. Bien, la nappe, elle était Danny bien. Danny Kitty à la guitare, il avait une bonne réverb.
C'est bien. Les tomes de la batterie, vraiment, non, ça fait trembler mon cœur.
Ah, oui.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est l'onction, ça.
C'est l'onction,
mais... C'est l'atmosphère spirituelle.
Mais tu vois, en même temps, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était dans un camp chrétien qui s'appelle Parole de vie. Ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, c'était un mardi soir. Petite musique, petite guitare, arpège.
C'est important. Ouf.
Très
arpège,
important.
Bien arpège. Message de l'évangile. Hein.
Est-ce qu'il y avait une réverb?
Il n'y avait pas de réverb. Mais arpège, non. Le gars qui joue, vraiment, Alex, big up. Arpège, vraiment magnifique. Et en fait, oui, à ce moment-là, j'ai été bouleversé par l'atmosphère. En vrai, j'ai été bouleversé par l'atmosphère.
Et parfois, ça t'aide à comprendre des réalités spirituelles aussi.
C'est exactement ça. Moi, en fait, ce soir-là, j'ai pas donné ma vie au Seigneur. Je pensais avoir donné ma vie au Seigneur, mais c'était pas vrai. J'avais pris conscience qu'il s'était passé quelque chose et j'avais été touché pour la première fois par le message de l'évangile et parce que j'avais vécu ce que j'avais expérimenté. Deux jours plus tard, jeudi soir, quand pas de musique, il fait nuit pleine, il y a juste un petit feu et il y a un gars qui prêche l'évangile. Qui prêche l'évangile, mais tu vois, dur, tu vois, là, vraiment, ça faisait pas plaisir, tu vois, genre, vraiment, là, tu prends conscience de ta condition de pêcheur, et pour un gars comme moi, à l'époque, qui était un peu fier et tout, je me disais, non, moi, je suis déjà bien. Et donc, à ce moment-là, parce que deux jours plus tôt, mon cœur avait été un peu fissuré par ce que j'avais vécu, il y avait une ouverture qui m'a permis d'être attentif, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça. Parfois, on n'est pas toujours là pour gagner des âmes. On est là pour faire notre part. Celui qui va gagner l'âme, c'est, espérons d'ailleurs, que ça se fasse dans un cadre où il peut avoir un vrai suivi. J'ai envie de croire que le Seigneur, il est au contrôle de tout ça et que ceux qui va attirer à lui, il va aussi pouvoir les placer ensuite dans un environnement qui leur permettra de grandir. Parce que dans nos concerts de 1000 personnes, derrière, il n'y a pas forcément de suivi, tu vois. Mais notre rôle dans ces concerts de 1000 personnes, c'est d'ouvrir des portes. De créer un terrain fertile pour plus tard. Tu vois. Chacun fait sa part, chacun joue son rôle, mais il faut qu'on ait conscience, tu as raison, de la responsabilité que c'est d'annoncer l'évangile par la musique et de ce qu'on ouvre comme porte et de la responsabilité que ça nous donne. Du coup.
Ouais, mais je suis archi d'accord avec ça, dans le sens où la musique, pour moi, c'est un outil, c'est une porte d'entrée, c'est un outil de lien. Tu sais. Parce que tu viens avec le message de l'évangile, la personne, elle t'écoute pas, tu vois. Mais tu viens avec un bon rythme et une belle mélo, la personne, elle t'écoute. Donc, moi, j'ai toujours vu la musique comme ça. C'est un support pour un message, c'est une porte d'entrée. Là où je me pose la question, c'est la place que ça prend. Parce que si tous nos efforts sont concentrés sur attirer le monde, faire du bruit, un peu ce combat culturel, tu vois. Dans le monde, ils font ça, nous, on n'arrive pas. Ouais, il faut que... Ok, super, on fait plein d'événements, plein d'artistes, ça stream, c'est bien. Mais tu vois, quelle place ça a en fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une génération de chrétiens du divertissement, tu vois ce que je veux dire? De chrétiens qui croient que la foi chrétienne, c'est ça. C'est s'amuser, c'est écouter de la musique, c'est danser en concert. J'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place dans l'Église actuelle. Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends ce que tu
veux dire. Et je trouve l'enjeu, il est là. Et même la louange. Hein. Beaucoup de chrétiens écoutent tous les jours du Hillsong, mais parfois ça s'arrête à écouter de la musique. Et ils pensent que c'est ça, finalement, la relation avec Dieu. Ah, je ressens quelque chose de particulier. Et c'est là où je dis, nous, on entretient ça sans le vouloir, dans le sens où on participe aussi parfois à ce genre d'événements et tout. Et moi, c'est toujours mon effort de dire, les gars, c'est pas ça la foi chrétienne, c'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est une porte d'entrée, c'est un outil. On veut l'utiliser, Dieu l'a mis entre nos mains. On veut servir Dieu de tout notre cœur avec la musique. On ne veut pas le faire à moitié et tout. On ne veut pas négliger l'œuvre de Dieu, la manière dont il transforme les vies aussi à travers ça. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne, les gars.
Le plus grand risque, moi, je ne le vois pas dans la musique. Je le vois dans les réseaux sociaux, tout court. Je le vois dans les prédicateurs de TikTok. Tu vois. Le risque, je le vois là. Parce que tu vois, un jeune chrétien, 13, 14, 15, 16 ans, qui se lance dans la musique du jour au lendemain sans accompagnement, c'est dangereux. Un jeune chrétien, 13, 14, 15 ans, qui sans accompagnement se lance dans la prédication sur TikTok parce que tout d'un coup, il se sent pousser des ailes et il se dit « moi j'ai la vérité », c'est encore plus dangereux pour moi parce que, frère, quand tu parles, c'est pas pareil. Quand tu chantes, tu peux édulcorer, machin, machin. Quand tu parles, tu parles. Et t'as des gens qui sont hyper radicaux sur TikTok, qui posent des vérités. Le Seigneur dit que ça, c'est OK, ça, c'est pas OK et tout. Et t'as des gens qui les suivent, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et ça, je le vois tous les jours. Et ça me fait plus peur que l'artiste du coin qui a 1200 abonnés et qui fait ses morceaux qui sont pas ouf, mais tu vois.
Moi, je mettrais ça au même niveau, en vrai.
Je sais pas.
Parce que la musique, tu parles aussi, tu vois. Et ouais. Au-delà, en fait, carrément... Après, ça dépend des gens, mais carrément, avec la musique, tu peux plus facilement influencer ton auditoire qu'en parlant. Quelqu'un qui parle, tu peux plus facilement avoir le recul de dire « Non, les gars, ça, c'est pas en conformité avec la parole. » Je dis pas « Amen » à ça. Sauf les gens qui forcent les « Amen ». Ça dépend le charisme, et le, tu vois. Oui. Mais t'écoutes une musique. On en a parlé, il y a l'émotion qui joue, il y a les sentiments, il y a l'ambiance, il y a ces choses-là qui peuvent t'influencer. Et au final, le message de la musique, tu y crois dur comme fer, encore plus que le message de la parole.
Mais est-ce que c'est pérenne, tu vois? Comme je disais tout à l'heure, la musique, ça influence. Mais quand c'est suivi de rien, ça influence, je trouve, hein. Après, c'est que mon avis, mais ça, je trouve que c'est éphémère. C'est ça que je trouve. Tu vois, je trouve que la musique, elle a cette qualité à impacter très fort, très vite, mais que ça s'essouffle avec le temps. Ouais, tu vois?
Je suis plutôt d'accord
avec Alors ça. Que... Une parole qui est posée, le Seigneur dit que tu prends un passage, tu sors de son contexte et tu fais dire, la Bible est claire, regardez en acte machin, tu vois, ça,
ouais, c'est
ça reste frère. Parce que, ben, attends, regarde la vidéo, tiens, je te l'envoie, regarde, c'est là, c'est écrit. Ça, c'est dur, frère.
De toute façon, les deux se nourrissent, c'est pas comme si c'était deux trucs complètement différents.
C'est sûr.
Et la musique chrétienne est imprégnée de la culture chrétienne, j'allais dire, mais... On en parlera dans un autre épisode, mais je pense que dans l'Église moderne, il y a des fausses doctrines, il y a des mauvaises pratiques, des choses comme ça, et qui sont véhiculées, imprégnées, et qui influencent la musique chrétienne, tu vois. Et donc les deux s'entretiennent l'un l'autre, tu vois. Mais moi, j'ai envie de mettre les deux au même niveau, dans le sens où, justement, parfois on se dit « Ah, mais je fais que de la musique », tu vois. On minimise l'impact qu'on peut avoir.
Oui, c'est vrai. C'est
tu vois, et c'est un peu ce qu'on disait sur, ouais, on voit la musique comme une carrière, comme un truc, ou comme un passe-temps, comme une passion. Mais à partir du moment où tu fais de la musique chrétienne, gros, t'es en train de parler de Dieu. Prends pas ça à la légère. Et moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui devraient faire de la musique non chrétienne. Tu vois ce que je veux dire?
Non, je comprends.
Mais du coup, ils commencent à faire des musiques du monde en mettant Jésus dedans, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu utiliser le nom de Dieu en vain, tu vois. Et je préfère qu'ils fassent de la musique non chrétienne avec des valeurs chrétiennes. On pourrait parler de Kenny Kikessa, mon artiste préféré. Tu vois, moi, je kiffe quand il fait des sons d'amour, qui parle de mariage, d'engagement et tout. Il ne met pas forcément Dieu dans ses musiques, mais il y a les valeurs de Dieu, il y a les principes de Dieu, tu vois. Moi, je préfère ça que de faire des sons où ça parle de Dieu, mais de manière très légère. C'est là où moi, je suis plus gêné, tu vois. Et surtout, on parlait tout à l'heure, à partir du moment où tu gagnes de l'argent sur le nom de Dieu, c'est pas rien. C'est un ministère, en fait. Tu vis de l'évangile. Un pasteur qui vit de l'évangile, c'est normal. Il ne sort pas de nulle part, il n'est pas autoproclamé. Un missionnaire qui part dans tel pays, etc. Et pareil, il y a des églises qui le soutiennent et tout. Mais tu vois, dans la musique, on accepte que n'importe qui puisse en vivre. C'est pas grave, je ne suis pas contre le fait de gagner de l'argent. Mais juste réalise que tu es en train de vivre de l'évangile. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu te sers de Dieu, tu vois? C'est une vraie question à se poser.
Non, je comprends.
Tu n'es pas obligé de dire le nom de Jésus à chaque fois. Tu peux faire de la musique qui ne parle pas forcément de Dieu, mais qui est imprégnée des valeurs chrétiennes. Et ça aura sûrement encore plus d'impact, tu vois? Parce que tu transmets des valeurs, tu transmets une culture, tu transmets plus que simplement Jésus, Jésus. Et des fois, le Jésus, il est un peu creux, tu vois?
Mais je pense que dans les deux cas, t'es tout, t'es, enfin, je suis d'accord avec toi, mais dans les deux cas, t'es tout aussi responsable. Après, tu vois, pour parler de Kenny, pour exemple, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu serais prêt à encourager quelqu'un, un chrétien, à faire de la musique non chrétienne. Moi, ça, je pourrais pas le faire, tu vois. Je vais jamais encourager quelqu'un à faire de la musique non chrétienne.
C'est de manière générale que je dis
mais
ça.
Mais en revanche, quelqu'un comme Kenny qui me vient me voir en me disant « Frérot, moi, ma vision, c'est ça. Franchement, j'ai vraiment à cœur de pouvoir aller justement dans d'autres sphères et y amener les valeurs chrétiennes sans pour autant faire de la musique dite chrétienne. Bah, frérot, félicitations.
Mais tu vois,
avance.
Ce modèle-là, moi...
Et je te soutiens en plus, tu vois.
Moi, je le vois nulle part, ce truc-là, tu vois.
Bon, il est... Si, parce qu'en fait...
T'as soit des artistes non chrétiens qui font de la musique non chrétienne et qui parfois se font passer pour des chrétiens. On va pas citer de base.
Non,
mais t'as quoi,
t'es dur toi aussi.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui.
On a ce truc-là, tiens, et les chrétiens, des fois, ils sont archi fiers. Bon, non, moi, non, je me réjouis pas de ouf de ce genre de choses parce que je me dis, c'est quoi le témoignage et tout. Après, tant mieux si lui se rapproche de Dieu et tout. Mais t'as ensuite le modèle d'artistes chrétiens qui font de la musique chrétienne. Mais le modèle de Kenny...
Oui, je sais pas si on a beaucoup dans son modèle, mais dans ce créneau-là, de se dire, je suis chrétien. Après, je connais pas les gens dans leur vie intime, tu vois, mais de se dire, je suis chrétien, je fais ma musique, mais je tente de l'imprégner des valeurs chrétiennes, avec plus ou moins de réussite, hein. Il y en a, frère. Il y en a plein. Et pareil, sur ça, j'ai pas d'avis, tu vois. Parce que, déjà, je peux pas juger ce qu'ils font, leur vision, parce que je la connais pas. Et par ailleurs... tu vois, tu sais pas quel est son parcours, tu sais pas quelle est sa trajectoire, tu sais pas quel est l'objectif final, tu vois. Tout comme, moi, je suis sûr que pour Kenny, il y en a plein qui le comprennent pas.
Mais tu vois. Moi, c'est pour ça que j'en parle là.
Tu vois, il y en a plein qui le comprennent pas. Nous, on le comprend parfaitement parce qu'il nous a expliqué, on s'est assis, il nous a expliqué, tu vois. Mais il y en a plein qui comprennent pas, il y en a plein qui l'ont jugé. D'ailleurs, si tu l'as jugé, c'est pas bien. Mais il y en a plein qui l'ont jugé, tu vois. Il y en a plein qui le jugent encore aujourd'hui sans comprendre sa vision. C'est pour ça que vraiment, depuis quelques années, hein, j'essaie vraiment de peser mon regard, tu vois, de peser mes mots. Tout ce que je peux faire, au pire, tu vois, si je sens qu'il y a de l'égarement, tu vois, c'est prier, mon frère. Et ça, c'est puissant, c'est suffisamment puissant, tu vois. Mais je préfère être dans ça que de poser des avis trop tranchés, tu vois.
Non, mais après, c'est du cas par cas. Tu vois, moi la réflexion que j'ai, elle est vraiment générale. C'est pour dire, parce que comme tu dis, il y a des gens qui sont, pour eux, un chrétien qui fait de la musique, où il n'y a pas le mot Jésus, c'est anathème, c'est un péché. C'est, tu vois, c'est grave. Non, chacun a son appel, chacun a son truc. Et peut-être que même ça impactera plus le monde que de rester entre nous, de faire de la musique purement chrétienne. Tu vois,
ça, c'est sûr.
Donc, voilà. En tout cas, la conviction qui me reste, même si, vas-y, chacun peut avoir sa direction, son appel et tout ça, ça reste quand même que parler de Dieu, c'est pas rien. Tu vois.
Ça, c'est sûr.
Hey, c'est sacré,
ça,
en fait.
Ça, c'est sûr. Rappelle-toi le dernier morceau que j'ai sorti avant de partir. Je parlais que de ça.
Ouais.
Je crois que ça dit un truc. Je vous avoue que j'ai peur pour notre génération. Tout le monde veut chanter, mais combien ont compris la mission? On cherche à être artiste avant d'être à Christ. On veut convertir des vies sans même consacrer nos vies. On veut servir Dieu, mais on ne suit pas Dieu. Tu vois, si tu proclames le nom de Jésus-Christ, sois sûr de savoir ce que tu fais, parce qu'on est conscient de notre faiblesse et de notre potentiel à grandir, mais surtout, ayant conscience de notre responsabilité. Et encore plus, tu as raison, si tu gagnes de l'argent, sois sûr de le réutiliser pour l'avancement du royaume et pas juste pour ton propre gain. Bien sûr que tu peux vivre de ça, et gloire à Dieu si tu y arrives. Tu vois, je pense à Mick. Mick, c'est un mec formidable, tu vois. Et si Mick parvient vraiment à vivre de sa musique, gloire à Dieu, tu vois. Mais c'est un mec, il a tout sacrifié pour ce service-là. Il a mis son corps, son temps, sa famille, tu vois, toute sa vie transpire ce service, tu vois. Et pour des personnes comme ça, vivre de l'évangile, vivre de la musique, c'est son appel. Il ne veut faire que ça. Alors qu'il ne sait pas faire que ça, tu vois. Mais il ne veut faire que ça. Et c'est là où je reviens à ce qu'on se disait au début. Est-ce que l'Église universelle peut soutenir davantage ce type d'initiative? Oui. Est-ce qu'elle le fait assez pour l'instant? Non. Mais ça va dans cette direction-là, tu vois.
Et c'est un effort des deux côtés. Mais justement, on parle de cette responsabilité en tant qu'artiste chrétien. Est-ce que pour toi, cette responsabilité, c'est surtout le fond, surtout la forme? Est-ce que c'est les deux? Parfois, on entend, voilà, tu peux pas être chrétien et faire de la musique qui s'écoute pas, genre dans le sens où il faut vraiment que la qualité soit là, on doit donner le meilleur, être dans l'excellence. Et parfois, on est plutôt en mode, non, la forme, c'est pas ce qui compte, c'est le message, etc.
Moi, je pense qu'il faut réussir à allier le fond et la forme, tu vois. Et merci Seigneur, la musique chrétienne s'est développée à une vitesse incroyable, tu vois. Pour certains, pour les plus anciens, ça va paraître long, tu vois. Mais pour nous qui sommes là que depuis 15 ans à peu près, tu vois, mais c'est incroyable. Quand on a commencé, les moyens qu'il y avait, les moyens qu'il y a aujourd'hui, la qualité des artistes qu'il y a aujourd'hui, et je parle même pas artiste, je parlais instrumentiste. La qualité des instrumentistes.
Mais les chrétiens, on est les meilleurs.
Oh là là, mais en fait, on nous pique maintenant nos instrumentistes.
Mais c'est ça.
Pour aller faire des concerts avec des Pierre Garnier. Nos meilleurs instrumentistes, ils sont tous dans les tournées de tous les artistes que tout le monde écoute à la radio. Parce qu'aujourd'hui, on a acquis cette qualité artistique, c'est exceptionnel.
Ça, c'est l'Église.
C'est l'Église.
C'est la formation depuis tout petit.
Prends le top 10 des artistes Spotify, ils sont quasiment tous passés par l'Église.
Ouais.
Des produits de la church, non, tu
c'est
vois,
vrai, c'est
des cultes. Et en fait, gloire à Dieu, il y a vraiment cet élan d'ambition artistique. Et pour moi, c'est pas péché, quoi. C'est bien de vouloir chercher à aller le fond et la forme, de faire un produit qualitatif. Est-ce que le Seigneur peut toucher les cœurs sans ça? Oui. Si tu n'as pas la possibilité de mettre de l'excellence artistique, mais que tu as à cœur de partager des morceaux simplement, frère, sœur, fais-le aussi, tu vois. Là encore, c'est dans la mesure de ce que le Seigneur te donne comme fardeau, va à fond.
Oui, parce que parfois, il peut y avoir une pression, tu te compares aux autres.
Non,
et puis...
faut pas. Et ça, c'est dangereux.
Ouais.
La comparaison, c'est ce qui nous tue. Et tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes chrétiens qui se lancent dans la musique, ils cherchent leur créneau, tu vois. Ils cherchent leur positionnement par rapport à d'autres artistes. Tu te trompes en faisant ça, je trouve. Si tu commences à faire des grandes études marketing avant même d'avoir fait un morceau, réfléchis un peu, tu vois. Pose-toi un peu, dose un peu, réfléchis beaucoup, dors bien, tu vois. Mais ça, c'est que mon avis, tu vois. Mais il faut pas prendre les choses à l'envers, tu vois. Sinon, on avait commencé en se disant... En plus, à l'époque, il n'y avait pas grand monde, tu vois.
En plus, nous, on est nuls, hein, musicalement, faut dire.
En vrai, ça, c'est un secret de production, faut pas dire. Faut pas dire. Ça, c'est sans... En fait, sans Daniel. Sans Daniel, il n'y aurait pas eu grand-chose. Comment il travaille nos voix.
Non, mais en vrai, nous, Dévotion, on n'est pas les plus grands chanteurs.
C'est vrai.
Au niveau performance vocale, vraiment. Même au niveau instrumentiste. Heureusement qu'on a eu de l'aide. Mais malgré ça, et puis bon, aujourd'hui, il y a les moyens qui permettent parfois de pallier à ces lacunes. C'est vrai que moi, je ne suis pas dans forcément cette recherche d'excellence constante au niveau de la forme, même si je pense qu'on a beaucoup progressé. Mais bon, parfois, ça devient trop la priorité. Alors, peut-être que moi, c'est l'inverse. Je sais pas, c'est ma priorité. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'agir.
C'est justement ça qui est extraordinaire. Dévotion, on n'a jamais été les meilleurs. tu vois, en fait, si on s'assoit vraiment à la table de tous les artistes qui ont été en même temps que nous, entre guillemets, on n'a jamais été artistiquement purement les meilleurs. Par contre, là où on peut dire qu'on a tenu notre ligne, c'est qu'on a toujours voulu valoriser le fond. Et la forme, essayer de faire du mieux de nos capacités. Quand tu écoutes nos morceaux de 2012 et nos morceaux de 2024, c'est pas pareil. Mais le Seigneur nous a permis de grandir. Et on ne touchait pas moins les gens en 2012 qu'en 2024, alors que la forme était moindre. Et ça, c'est parce que le Seigneur, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui convainc, et il le fait avec nos capacités. C'est ça, il nous offre l'opportunité de servir. C'est pas parce qu'on est suffisamment bon qu'on sert, tu vois. Il veut se servir de nous avec ce qu'on a à mettre sur la table. Et donc, si tu as une énorme forme qualitative et tout à mettre, mais si tu n'as pas, mais quand même, tu vois. Et le Seigneur fera le reste.
C'est moi, je kiffe les gros concerts, les belles lumières, les belles sonos. Quand je vais à MLK, quand je vais à ICC ou des trucs comme ça, je suis fan. Mais je respecte de ouf, tu sais, les églises. Tu as des églises réformées qui vont être dans la sobriété extrême. Et derrière ce principe de sobriété, des fois, il y a des exagérations dans le sens où ils vont dire on ne veut pas de batterie, pas de sonos, pas de trucs. Non. OK. Mais derrière ce principe-là, il y a un principe spirituel que je trouve archi profond et archi fort, c'est se dire, on a confiance en Dieu, et on a tellement confiance en Dieu, et confiance dans les moyens qu'il nous donne, les moyens qui sont dans la parole, parce que la parole ne parle pas de besoin de micro, de sono et de je ne sais pas quoi, tu vois. Tellement confiance en ce que Dieu est capable de faire à travers ces choses-là, qu'on ne veut pas rajouter autre chose, tu vois. Et je trouve que c'est fort. c'est pas du tout ma vision, dans le sens où c'est pas ce que j'applique. Moi, je kiffe quand il y a une grosse sono qui envoie, qui tape.
Et les lumières, les trucs.
Mais en même temps, j'ai expérimenté ce truc-là de Dieu qui agit dans la simplicité, dans la sobriété, tu vois. Et il faut aussi qu'on soit conscient que parfois, les lumières et tout ça, ça nous dévie du vrai message et de ce qui compte vraiment, tu vois.
Là où ça devient dangereux, c'est quand l'un accuse l'autre de péché, tu vois. C'est là où c'est dangereux.
Il y a un autre danger, c'est quand l'un prend la place de l'autre.
Oui.
Tu vois ?
Oui, c'est vrai.
Parce que l'en face, parfois, est tellement sur la forme qu'on perd le fond.
Oui, c'est vrai.
Et dans des choix d'église, on s'éloigne du sujet, mais en vrai, tu as un budget de 10 000 euros. Qu'est-ce que t'en fais ? Tu vois ? Est-ce que tu mets tout dans la sono et dans les lumières ? Ou est-ce que tu mets dans un projet social pour aider les pauvres et les orphelins et trucs ? Tu vois ce que je veux dire ?
Je comprends.
C'est des vraies questions. Et je vais même aller plus loin, hein, nous, dévotion. On a eu l'occasion de parfois mettre un peu d'argent dans des clips et tout. Mais la plupart du temps, on s'en est privé.
Ouais.
On s'est retenu. Parce qu'on s'est dit, c'est pas ça le plus important, tu vois. Et là, on a investi ce qu'il faut pour ce podcast parce que ça nous parle plus.
Ouais, je comprends. Bah oui. Mais c'est encore une fois une question de vision. C'est une question de là où tu veux mettre ton énergie. Et ça revient en fait que Dévotion, dès le départ, a fait le choix du fond, tu vois. Et c'est conforme à la vision dès le départ, tu vois. Donc, tout est une question de vision et comment tu la soutiens.
Frérot, on a beaucoup parlé.
Ouais.
Je te propose que je te fasse écouter un son.
Vas-y. Vas-y, vas-y.
C'est lui qui est trop fort, c'est lui qui a trop fait. Si j'ai la victoire, c'est lui qui a le trophée. C'est lui qui a le trophée. J'avais le cœur atrophié. Pas de quoi tenir, pas de quoi être ferme. À part en lui, pas de quoi être fier. Premier des pêcheurs. Dernier des prêcheurs, j'aurais dû le payer très cher, mais de moi Dieu s'est approché. C'était pas mon trajet, c'était son projet. Sous la gracia, plus jamais de crachat sur mon rachat. C'est ça, ça que je veux dire, c'est ça que le malin veut dire.
Ah ouais, nouveau son.
Bah c'est dans le projet 5 Sola, donc ça c'est Sola Gracia, zéro mérite. C'est un sujet dont on va parler justement avec Rubens dans l'émission où je l'invite. On va parler de ce sujet-là, Sola Gracia. Mais ouais, je voulais te faire écouter ce son, vu qu'on parle de musique chrétienne.
Ouais.
Si t'as un avis, un retour, comme ça, on est dans le concret, là. On a beaucoup parlé théorique.
Moi, ça me parle, hein. Ouais. Ça me parle, c'est du Joe. C'est du Joe dans le style, beaucoup de textes, beaucoup de contenu. Créativement, c'est technique, j'aime. Et dans le fond, fort. Tu vois, grâce comme un cadeau que j'ai pas mérité, trophée qui est porté par le Seigneur. Non, c'est fort. C'est fort et puis ça humilie dans le bon sens du terme.
Oui.
Et c'est bien que des artistes comme je veux dire comme toi, mais tu vois, qui ont une certaine légitimité allez, arrête.
Tu rajoutes.
Ça va deux minutes. Non, mais ça fait 15 ans que t'es là, tu vois, et que toi, tu portes ce discours de en vrai, moi, je suis personne, j'y mérite rien, grosso modo, si je caricature. C'est pas inintéressant pour des plus jeunes ou moins jeunes, mais qui peuvent aussi, tu vois, être pris dans la starification, tu vois. On a tous des artistes qu'on admire dans le milieu chrétien aussi, et on starifie peut-être parfois, tu vois, sans le vouloir.
Est-ce que c'est un son que t'écouterais ?
Ouais, je pense.
Ouais.
Moi, c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'écoute toujours les 30 premières secondes d'un son, et je sais si je vais l'aimer ou pas.
Il y en a aujourd'hui, c'est les 3 premières secondes, des fois.
Ouais, je sais.
Avec TikTok, là.
Mais c'est pas forcément bien. Il y a un son qui peut être très fort dans le fond, mais si l'atmosphère me plaît pas, je vais l'écouter une fois, et puis je vais plus l'écouter, tu vois.
Mais tu sais que c'est intéressant ce qu'on dit, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'importance du fond et tout, je l'applique en tant qu'artiste, auteur, je l'applique pas du tout en tant qu'auditeur.
Mais c'est pas pareil, hein.
Mais de fou, en fait. Mm-hmm. En fait, ça dépend de la manière dont on consomme la musique, tu vois. Ouais. Moi, je vais pas forcément méditer, forcément me poser. En vrai, les sons légers, c'est très bien, des fois, pour mettre dans la voiture, pour mettre à la maison, pour l'ambiance, c'est pour trucs ça. Et tout, tu vois.
Et là où t'as raison, c'est que ça dépend vraiment comment tu consommes.
Mais tu vois, justement, on en vient à une question importante, c'est du coup l'auditeur, le consommateur de musique chrétienne. Mm-hmm. Est-ce qu'il doit sélectionner ce qu'il écoute ? Est-ce qu'il doit faire du tri ? Est-ce qu'il doit pas forcément faire du tri, mais avoir quand même un regard critique ?
Ça, c'est le rôle du chrétien.
Ouais.
Le chrétien doit faire du tri. Le chrétien doit faire du tri.
Même dans la musique chrétienne ?
Dans tout. Bien sûr, dans tout. Parce que c'est pas faire du tri pour dire ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Mais c'est faire du tri pour dire ça me fait du bien, ça me fait moins de bien. Tu vois ? Moi, pour parler de moi, je me connais. Je sais quel type de morceaux vont me faire du bien dans certaines circonstances et quel type de... de morceaux, je pourrais les retourner dans tous les sens, je vais jamais accrocher, tu vois. Parce que ça me correspond pas. Et parfois, c'est moins pour le fond que l'atmosphère qui me parle pas, tu vois. Moi, par exemple, j'ai fait du rap pendant très longtemps, j'écoute très peu de rap. Ça, tu savais déjà à l'époque. Déjà, quand j'ai commencé le rap, j'aimais pas le rap. Déjà, pour commencer, moi, je suis un mec de worship à fond, morceaux un peu afro et tout, machin. Je suis que dans celle-là, tu vois. Mais pour autant, il y a des morceaux de rap que j'écoute pour le fond plus que la forme. Moi, je sais que j'ai des périodes, j'ai des playlists. Quand je me sens un peu triste, j'ai ma playlist. Quand je me sens un peu fatigué physiquement, j'ai ma playlist. Parce que c'est des morceaux qui vont me faire du bien à différents moments de ma vie, tu vois.
Moi, je t'avoue que la musique... En fait, je base pas ma relation avec Dieu sur la musique. Et ça fait que... Moi, j'écoute de la musique, des fois, ça me fait pas du bien, ça me fait pas du mal.
Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je comprends. Ouais.
C'est rare que j'analyse vraiment le texte, le fond et tout. En fait, j'analyse le texte, mais d'un point de vue forme.
Ouais.
Je suis assez exigeant, je pense. Tu vois, moi, je peux ne pas aimer un son parce que c'est mal écrit.
Ouais, je comprends.
Pas parce que c'est pas les bonnes doctrines, et que c'est, tu vois, mais parce que je trouve que c'est mal, c'est un peu bateau, les phrases, trucs, tu vois.
Non, mais attends, il faut dire la vérité. C'est pour ça que tu disais. Pardon, hein, c'est cru, mais parfois, il y a des sons qui sortent chrétiens. De mon point de vue, c'est nul, frère. Non, pardon. Pardon.
Ça, c'est un bon extrait de début de vidéo, ça.
Pardon. Non, mais pardon. Mais de mon point de vue, parfois, c'est nul. De mon point de vue, parce que...
Non, mais après, c'est des goûts aussi.
Ce n'est pas pour autant que ça ne va pas bénir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour autant que ça ne va pas faire du bien à quelqu'un d'autre. Mais la musique que j'écoute et la musique que je fais, elle est très connectée à mes émotions. Et connectée aussi à mes circonstances de vie, liées à ce que je vis, tu vois. Et là où je te rejoins, c'est que... Une fois par semaine, moi, tout le temps, je vais sur le top, sur le tendance, top tendance YouTube, là, j'écoute tout. Pour savoir ce qui se passe.
Ouais, être à jour.
C'est important. Pour être à jour, c'est quoi les tendances du moment? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui coûte en ce moment? Ce qui traîne un peu, les genres, les trucs.
Et puis toi, t'es dans le milieu, donc voilà. Je pense que c'est important que tu sois un peu...
Voilà. Et c'est pour ça que c'est dur aujourd'hui pour un artiste chrétien de percer, entre guillemets. Parce que la musique se consomme de manière tellement courte. Tu vois, tu juges un artiste au bout de 10 secondes d'un TikTok, au bout de 15 secondes, tu le juges plus sur sa com que sur le fond de sa musique. C'est un poids de se dire, j'ai fait ma musique, waouh, c'est incroyable, mais comment je la communique maintenant? Et si je la communique pas bien, est-ce que je passe pas à côté de ce que le Seigneur il avait prévu pour ce morceau, dans la mesure où j'ai pas permis à ce morceau d'être écouté par un max de personnes? En fait, tu peux te mettre dans ces logiques-là si tu y vas. Et dans Dévotion, moi, juste avant que je prenne du recul, j'étais beaucoup dans ça. J'étais beaucoup dans « on a fait un son incroyable ». Il faut que la com soit tout aussi incroyable parce qu'il faut que ça te soit entendu par un max de personnes. Que le potentiel que nous, on peut apporter avant que le Seigneur fasse tout le reste, parce qu'il va faire des choses, il va ouvrir des portes qu'on n'imagine même pas, mais que nous, jusqu'au max qu'on peut aller, on y aille. Et je trouve que c'est formidable, mais en même temps, ça vient avec son lot de pression, parfois inutile, son lot de charge mentale, parfois inutile. Donc c'est une question d'équilibre, de mesure et d'accepter parfois de se dire, ok, ouais, je fais pas de com, mais le son est fort et ça touchera 4 personnes et les 4 personnes elles seront bénies. C'est
après toi, c'était aussi ton don.
Moi, c'était mon domaine, la com, c'est pour ça.
Moi, depuis que t'es parti, la com, c'est zéro. T'étais fort là-dedans et c'est ça qui a permis qu'on ait une audience avec des soldats des Yahweh et tout ça, tu vois, des histoires d'amour. C'était aussi grâce à ton travail. Donc, c'est pas inutile. Mais effectivement, plus le temps avance, plus ça prend de la place, cet aspect-là. Moi, c'est pas du tout mon délire, donc c'est pas toujours facile de trouver sa place en fait en tant qu'artiste chrétien, parce qu'on n'est plus des artistes, on est des influenceurs, on est des TikTokers, on est des YouTubers. Ça passe presque avant la musique et la composition. Et c'est dommage, parce que parfois ça bride un peu l'art, tu vois.
Complètement, c'est vrai. Parce que penser performance, c'est pas péché, hein. T'as des nombres de vues, t'as des nombres de machins, et essayer de maximiser ça, c'est pas péché. Mais quand tu t'enfermes dans ça, est-ce que tu dis, c'est là où ça peut être dangereux. Et donc ça demande une force mentale, et on revient au soutien, aux gens qui t'entourent, qui doivent te permettre de sortir la tête de l'eau et te dire, ok, ta création artistique c'est une chose, la com que t'en fais c'est une autre.
La forme, ça compte, mais si ça prend la place de la parole de Dieu, de la vérité et du message de l'évangile, qui parfois peut être dur. Parfois, le message de l'évangile, il te met des grosses claques. Mais c'est pour ton bien.
Ouais.
Et je pense qu'on peut être chrétien sans écouter de la musique chrétienne. Ouais. Il y a plus important.
Non, c'est sûr. Ce ce qui est vrai, c'est que ça devient de plus en plus un outil puissant. Mais c'est pas toujours la musique qui fait la foi, et c'est pas toujours parce que tu as la foi que tu dois faire de la musique, tu vois. Parce que de nos jours, c'est trop. En fait, c'est le ministère qui est cool. Alors qu'à l'époque, c'était pas cool, tu vois. Ouais. C'est cool aujourd'hui de faire de la musique. Oh, t'es chrétien, tu chantes un peu bien, tu passes bien, bah, soit tu danses, soit tu fais de la musique, tu vois.
Et souvent aussi, moi, j'ai ce regard-là sur la vie d'église. Quelqu'un qui a un don artistique, musical et tout, il trouve tout de suite sa place, tu vois.
C'est vrai.
Mais celui qui sait pas forcément chanter, jouer d'un instrument, c'est plus difficile des fois de trouver sa place, son ministère, tu vois. Et c'est révélateur de quelque chose, parce que Dieu les appelle tout autant que le chanteur et le guitariste, tu vois. C'est révélateur de la place qu'on donne à la musique, tu vois.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a de... Mais ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Dans nos églises, la louange, c'est devenu cool, tu vois. Et rentrer dans l'équipe louange, c'est... tu vois, c'est le truc cool, quoi, tu vois. Il faut le faire. Alors que tu peux chanter de manière tout à fait basique, mais être un élément important de l'équipe louange parce que t'amènes le cœur de la louange, tu vois. Et ça, je l'ai compris depuis que j'ai quitté Dévotion. Le Seigneur m'a vraiment travaillé dans ce cœur de louange, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu chanter, mais je savais pas chanter, frère. Même dans Dévotion, dans les débuts, Dany, mais c'est mon micro. Maintenant, tu peux le dire, Daniel. Tu peux le dire.
Parce qu'on essayait de faire des trois voix. On n'était pas capables, mais on essayait quand même.
Mais j'ai toujours eu à cœur de chanter, tu vois. Donc, j'ai travaillé. Mais depuis 3-4 ans avec ma femme, on a vraiment ce cœur pour la louange, où on le développe, on chante ensemble, on loue ensemble, dans notre église, dans des événements. Je suis reparti un peu en mode bébé, tu vois, qui apprend. La louange, c'est quoi? Comment tu la vis? Comment tu transmets un chant? Comment, quand tu conduis la louange dans l'église, tu chantes pas, tu vois. Tu conduis, tu participes à un moment
particulier. Faut le dire, ça. En fait, tu vois, moi, j'insiste sur le fait que le ministère de louange, c'est pas l'équipe de louange, c'est toute l'église. Tu vois, on n'est plus dans l'ancienne alliance où il y a les lévites qui s'occupent du culte. Non, non, on est tous lévites, on est tous sacrificateurs, on est tous prêtres. C'est-à-dire, le ministère de la louange, de l'adoration, c'est pas réservé à celui qui est sur scène, qui joue un instrument ou qui a un micro. Tu vois, finalement, on devrait plutôt parler de ministère pour conduire, pour présider, pour peut-être encourager ou en tout cas édifier l'église. C'est un abus de langage quand on dit ministère de louange. C'est pas ça appartient pas à un groupe de personnes. On a tous ce ministère là.
Conduire dans la louange, ça devrait pas demander tout un artifice et des compétences extraordinaires de machin, et la technique et les lumières et les voix et la réverb et machin, tu vois. C'est bien tout ça, gloire à Dieu pour ça. Mais conduire dans la louange, c'est avant tout une disposition de cœur, de se dire on est 120 dans l'église, on a tous la louange dans notre cœur. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner et de conduire, tout simplement. Mais devant le Seigneur, c'est pas moi qui suis devant le Seigneur et tout, on est derrière moi. On est tous devant le Seigneur, pareil. Moi, mon rôle, c'est juste de faciliter un peu cette conduite du culte. That's it, tu vois. Et malheureusement, dans nos églises, c'est devenu tellement cool de faire la louange que ça y est, t'as une petite voix, t'as un petit grain, on va t'emmener la louange. Et tu vas chanter, tout le monde va te regarder comme ça. Mais tu vas conduire personne à la louange, tu vois.
Ouais,
ça, c'est encore un autre sujet.
Ah, c'est là, encore un autre sujet. Autre chose, là. Mais c'est intéressant. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le fait que depuis que tu as arrêté Dévotion, tu vis aussi le ministère d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Mm-hmm. Parle-nous un peu de cette évolution et de ce que ça change, de comment tu te sens aujourd'hui et de quand tu fais ton comeback dans le, dans le game.
Moi, je me sens privilégié parce que pendant 10 années et plus, on a servi ensemble, on a annoncé l'évangile dans plein de villes de la francophonie, on a chanté ensemble, on a grandi ensemble. Et ce qu'on a vécu, franchement, je le vois comme un rêve un peu, tu vois. Genre, je me serais jamais dit que le Seigneur me permettrait de vivre ce qu'on a vécu, tu vois. Et donc, me retirer après ces 10 années, c'était le moment pour moi où je me suis dit, Boris, tu pourrais rester encore 20 ans dans Dévotion, mais est-ce que tu le ferais vraiment pour les bonnes raisons? Parce que quand je suis parti, j'avais vraiment cette conviction de ne plus avoir grand-chose à apporter. Et quand j'ai dit ça à plein de gens, ils m'ont dit « Mais ouais, Boris, mais t'es Boris de Dévotion, ouais, bien sûr tu peux apporter des choses, machin. » Je dis « Mais oui, je peux chanter, je peux écrire, je peux machin. » Mais le jour où moi je vais me retirer, le Seigneur sera en capacité de continuer son œuvre dans le groupe, et c'est ce qu'il a fait. Mais la réalité, c'est que si je reste, c'est juste pour le confort de « On est bien dans ce groupe. » On se sent bien, on fait des concerts, on voit des gens, on rencontre, on voyage. Et c'était plus pour le confort de l'habitude que la profonde conviction de rester dans ce groupe parce que le Seigneur m'appelle à continuer, tu vois. Et quand j'ai quitté le groupe, c'était dur pour moi. pendant 2 années, tu vois, c'était vraiment dur parce que j'étais vraiment tiraillé entre cette conviction-là et le fait de me dire, mais ça me manque trop, tu vois. Ça me manque et ça me manque encore beaucoup, tu vois. Franchement, la musique et le groupe Dévotion me manque de ouf.
Pourtant, t'es toujours là, la porte est ouverte.
Je suis là, mais ça me manque. Mais le temps que j'ai libéré de tout le temps que je mettais dans Dévotion, que ce soit dans les concerts, dans l'écriture, dans les studios, dans les voyages, tout ce temps que je mettais dans Dévotion, j'ai eu l'opportunité de le mettre dans l'église. Mmh. Et c'est un peu comme, maintenant que le recul, je me dis, pendant 10 ans, le Seigneur m'a permis d'aller chasser les âmes partout. Aujourd'hui, il me permet d'être celui qui les accueille dans l'église et qui les fait grandir. Wow. Et c'est une continuité qui est, avec le recul, je me dis, mais c'est incroyable. Ouais. Franchement, si j'aurais voulu l'écrire, je n'aurais pas pu le faire comme ça. Tu vois, de me dire, j'ai fait ce temps-là dehors, maintenant je suis à l'intérieur et je suis celui qui récolte le fruit de ce que vous continuez de faire sur le terrain. Et moi, je fais grandir, tu vois.
C'est ouf.
Et mon rôle se cantonne à ça, dans l'église.
Ça me donne des frissons. Hein.
C'est simple. Hein.
C'est le principe de, il y en a qui arrosent, d'autres qui...
Voilà, qui saignent et d'autres qui moissonnent. Bah ouais. Moi, maintenant, je suis... Tu vois, je réceptionne. Vous, vous faites les passes, moi, je réceptionne et je fais mon œuvre, tu vois. Je fais grandir, je participe à mon humble niveau, tu vois, à faire grandir la foi, à fortifier la foi de chacun dans l'église, tu vois. Et la louange. La louange. Maintenant, je chante bien, mon frère. Faudrait qu'on chante ensemble. Ça va.
Non, t'avais déjà progressé, ça t'inquiète va. Pas.
Et surtout, le cœur de louange que le Seigneur me permet de développer avec ma femme, c'est extraordinaire. Donc, pour répondre à ta dernière question, il y a des choses qui se préparent.
Oh.
Ouais, mon frère.
En direct live.
Non, mais oui, c'est sûr que avec ma femme et un groupe d'amis, on a à cœur de partager les louanges que le Seigneur nous a permis d'écrire. Maintenant, j'écris la louange. Tu sais que c'est très différent d'écrire la louange. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est une autre mécanique. Ouais. C'est trop bien.
Il faut penser en mode assemblée.
Assemblée. Ouais. Et même dans l'assemblage des mots, dans le nombre de mots par phrase, dans la manière de faire sonner les mots ensemble, il faut penser, est-ce que l'église, pas l'église toi-moi, ma belle-maman, qui a quelques années de plus, est-ce qu'elle serait en liberté de louer le Seigneur avec ce morceau dans le fond, dans la forme, tu vois? C'est trop bien.
Donc il y a un projet louange là.
Il y a un petit projet louange. Wow. Un petit projet louange que le Seigneur façonne tranquillement. Et
on va en reparler en off. Ouais. Tu sais qu'à l'église, ici à Franconville, il y a un chant qu'on chante souvent. Les gens ne savent pas, c'est moi qui l'ai écrit.
C'est vrai?
Ouais. Oh. Mais bon, personne ne le connaît à part ici, tu vois.
Ouais.
Écoute, il te reste 30 secondes. On a dit que la musique, ce n'était pas le plus important. Il te reste 30 secondes pour t'adresser à une personne qui nous écoute et lui dire c'est quoi le plus important. C'est parti.
Caméra.
Ouais.
Moi, je vais pas dire mes mots, je vais dire les mots de Paul. Il a dit à Timothée, fortifie ta foi et parle de ce que moi je t'ai annoncé, parle-en à d'autres fidèles qui pourront l'annoncer encore à d'autres. Et ça, c'est la mission. Grandis dans ta foi et cette foi que tu fais grandir, partage-la. Prends conscience de ta responsabilité dans l'avancement du royaume. Ça veut dire que tu portes tous les jours le maillot 777, où que tu sois. Et donc, sois conscient de ça. Sois un fidèle. Soyons des fidèles ambassadeurs. On est ensemble.
Merci beaucoup, Boris. Un plaisir.
C'était cool.
Que Dieu te bénisse.
Ah, c'était fort.